Merci, monsieur Delarue, de la clarté, de la concision de ces cinq principes et puis de ces cinq questions. Je pense que nous allons retrouver un écho de tous ces aspects dans ce que va nous dire Olivier Dupuis, donc qui a procédé, je le rappelle, à une sur demande de l'ADESME, à une analyse juridique de la loi. Pour passer en revue tous ces aspects et préparer une évolution législative ultérieure, dont on ne connaît évidemment pas les modalités, comme il a été dit tout à l'heure. Donc, je rappelle aussi que cette étude reflète l'approche d'un juriste, mais l'approche d'un juriste qui connaît bien le terrain et les professionnels de santé avec lesquels il a l'habitude de dialoguer. Je vous donne la parole.
Merci, Monsieur Moulec. Alors, voilà, je vais le mettre un petit peu. Voilà. Alors, je peux, sur le plan technique, il est possible de. Ah, c'est ceci, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Alors, on va simplement tester que ça fonctionne bien.
Il faut juste aller vers là-bas.
Voilà, c'est ça. Ah, attendez.
Voilà.
Ça a l'air de fonctionner. Voilà. Très bien. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir invité à votre journée. Merci aussi et surtout de m'avoir accordé votre confiance pour proposer ces suggestions qui ont été travaillées, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs ce matin, très largement par le bureau. Donc un travail qui a été amendé par une réflexion collective, ce qui me semblait essentiel. Alors je vais peut-être vous expliquer dans le temps qui m'est imparti. Monsieur Moulac, vous ne m'avez pas précisé de combien de temps je dispose, parce que Monsieur Delarue a été
10 minutes, un quart d'heure.
D'accord. Bon, donc je peux peut-être vous rappeler très brièvement le contexte et les modalités de déroulement de l'écriture de cette note, puis ensuite vous exposer très brièvement les principales propositions, étant entendu que ces propositions-là se retrouvent de façon exhaustive, ainsi que l'analyse, sur le site internet, je l'ai bien saisi, de l'ADESME d'ores et déjà. Voilà, donc c'est déjà un élément important de diffusion, parce que c'est une véritable préoccupation. J'ai récemment été en contact avec un vice-président de tribunal de grande instance qui était très intéressés participant au syndicat de la magistrature pour récupérer ces éléments-là. Donc je crois que si je peux modestement participer à la contribution, en tout cas contribuer à cette diffusion, ce sera effectivement utile. Alors sur le plan, alors ça marchait tout à l'heure. Ah, c'est l'autre bouton, voilà. Donc c'est. Voilà, très bien. L'objet de la note juridique qui m'a été confiée consistait à analyser de façon approfondie le contenu de la loi de 2011, ce pourquoi vous vous trouvez avec une note quand même relativement volumineuse, mais aussi, bien entendu, de dégager les points clés de la réforme comportant une problématique juridique d'application. Et enfin, bien entendu, formuler des propositions d'amélioration du dispositif. Je tiens à dire d'emblée que mon activité professionnelle principale étant la formation des professionnels hospitaliers et finalement ainsi tisser un réseau m'a permis d'une façon tout à fait décisive de comprendre sur le terrain les problématiques. Donc là, je veux vraiment rendre, enfin, en tout cas, remercier très vivement des responsables, que ce soit des directeurs, mais aussi des responsables attachés d'administration hospitalière, du bureau des admissions, des établissements de santé mentale, qui font partie de l'ADESME pour l'essentiel, et en particulier le centre hospitalier de Rouffach, je vais le dire, parce que qui a contribué très activement justement à ces travaux. Travaux de réflexion. Sans ceci, je crois que l'analyse juridique, qui finalement ne pourrait pas se faire, tellement évidemment la mise en œuvre de la loi est un élément clé pour comprendre ses faiblesses et ses difficultés. La méthode suivie est la suivante, analyse préalable de la législation publiée dans le cadre de la rédaction d'un ouvrage, puisque finalement, dans le cadre de cette activité, comme je vous le disais, de formation, mais aussi d'écriture, j'ai souhaité, bien entendu, très rapidement publier pour aider les professionnels du terrain à identifier les conditions, mais aussi produire des analyses juridiques qui permettent d'éclairer aussi la loi dans sa complexité qui n'a échappé à personne, je crois, les renvois sans cesse à des articles. Enfin, d'ailleurs, je me suis même m'a étonné, je trouve assez extraordinaire, la capacité qu'ont les pouvoirs publics à écrire des textes avec ces enchevêtrements d'articles. Je vous avoue en être totalement incapable. Mais je crois très sincèrement, il y a un travail de simplification nécessaire à faire à l'avenir, qu'une loi est censée être lisible par tout le monde, et que finalement, sa complexité, je crois, est un problème démocratique, hein, d'une certaine manière, sur la garantie de bonne application de celle-ci. Donc là, vraiment, j'appelle, même si nous pouvons être difficilement entendus, mais je crois à une simplification aussi dans l'écriture du texte, ce qui est un élément qui manque, qui fait défaut d'une façon extraordinaire dans la loi sur la psychiatrie. Comme je vous le disais, ces échanges avec ces professionnels, je n'insiste pas, sont intervenus par la suite dès la mise en œuvre de la loi, c'est-à-dire dès juillet 2011, puisque dès que la loi a été publiée, il a fallu ce délai très court de mise en application. Et enfin, cette note a été remise fin mai 2012 et a été amendée à deux reprises après les échanges avec les membres de l'ADESM, dont M. Allos, vous avez évoqué tout à l'heure leur contribution très active. Enfin, cette version finale, donc vous avez peut-être assisté déjà, vous avez peut-être eu en main cette note sous une forme finalement provisoire, puisqu'elle a été la version définitive qui apparaît sur la couverture, est une version qui a été remise le 30 septembre 2012, donc à la présidence de l'association. Les principaux axes qui sont des axes souhaités par l'ADESM étaient de proposer des modifications visant à simplifier les procédures. Enfin, j'allais dire, il est évident qu'avant même que l'ADESM me le suggère, c'était un point tout à fait central d'attente de la part des professionnels du terrain, la multiplication des certificats médicaux, mais aussi, évidemment, la suppression des incohérences et des clarifications sur les points présentant une difficulté d'interprétation. J'ai eu le sentiment d'un certain agacement pour cette foire aux questions, dont je vois que sur le site internet, il y en aura une. J'espère que celle-ci ne présentera pas les mêmes caractéristiques, pour être, j'allais dire, relativement soft. Voilà. Alors, la problématique... C'était louable de faire une foire aux questions de la part du ministère. J'ai rappelé d'ailleurs à la demande de l'ADESM la valeur d'une foire aux questions. Et je crois qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, la foire aux questions publiée par le ministère était une volonté de compenser la difficulté que constitue une circulaire en termes de délai de publication pour pouvoir offrir aux établissements des réponses, des analyses dans un délai très court, donc une très grande réactivité de la part des services ministériels. Ce qui en soi est tout à fait louable. Et aussi, je pense, la conscience que la loi présente des difficultés interprétatives importantes. On retrouve des foires aux questions dans d'autres domaines, au niveau du ministère des Finances en particulier. Donc ce n'est pas un exercice classique. Sur le plan sémantique, il est clair que d'emblée, la notion de foire aux questions, qui a entraîné d'ailleurs pour certains un certain jeu de mots en disant « c'est vraiment la foire », est effectivement un dispositif qui déjà semble très informel. Donc, et pour dire... sans véritable valeur juridique, c'est-à-dire d'opposabilité en justice. Néanmoins, je veux souligner le caractère très louable de ce travail ministériel qui était effectivement de pouvoir proposer aux établissements quand même des analyses. Ce faisant, il est clair que, et je crois que ça n'a échappé à personne, que pour certaines analyses, on semait le trouble chez les professionnels et chez moi-même, j'allais vous dire, sur le plan du caractère contestable de l'analyse juridique. Mais là encore, hein, seules les juridictions pourront trancher, encore une fois, cela. Donc je ne veux pas vous dire que le ministère se trompe et qu'Olivier Dupuis ait parole d'évangile. Derrière, je vais soumettre, et j'ai soumis à l'ADESM, des analyses juridiques qui sont, pour certaines, contradictoires, mais soumettant à chacun, bien entendu, la liberté de pouvoir apprécier quelle est celle qui est la plus adaptée, qui est la plus plausible, finalement, laissant là encore le soin aux juridictions de pouvoir trancher, notamment, je pense, à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, selon la nature, évidemment, du contentieux. Bon, évidemment, un des points centraux que M. Delarue a souligné, d'ailleurs, hein, c'est la problématique des droits des patients et du souhait de renforcer ceci, notamment... en matière de confidentialité. Je crois que chaque hospitalier a bien conscience, et parfois de façon très saisissante, de la difficulté d'informer l'identité, de communiquer l'identité du tiers lors de l'audience, qui est une des premières informations, c'est-à-dire que le juge des libertés et de la détention, au nom du contradictoire, communique au patient, ce qui est effectivement un choc culturel massif dont certains directeurs, et là je me tourne à M. Vestner parce qu'on en a beaucoup parlé, qui est effectivement saisi dans la mesure où les hôpitaux ont traditionnellement, conformément à la jurisprudence administrative, choisi de ne pas décider, conformément à cette jurisprudence, de ne pas communiquer l'identité du tiers. Donc ça a été finalement un des points, d'achoppement initiaux entre le monde judiciaire et le monde hospitalier, qui traduit bien, c'est très symbolique finalement, mais traduit bien la difficulté d'un manque de cohérence entre finalement ce qui constitue pour certains des univers dissociés, différenciés et finalement hermétiques parfois. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut évidemment dépasser aujourd'hui. Alors, je vais, si vous voulez, dans le temps qui m'est imparti, non pas évoquer l'ensemble des propositions, mais peut-être évoquer les plus emblématiques, finalement, qui seraient celles pour lesquelles, qui appelleraient un léger commentaire. Alors, tout à l'heure, M. Larue l'évoquait, l'une des propositions importantes, c'est de supprimer cette coexistence des procédures. Alors, sur le plan de l'acronyme, on l'utilise comme on veut, soit à la demande d'un tiers en urgence, parce que finalement, je me déplace beaucoup en France et j'ai l'impression qu'il y a parfois des vocabulaires locaux. Tout ça, bon, je m'appuie évidemment sur le choix d'acronymes produits par le ministère. Bon, voilà, je crois que c'est la voix de son maître. Bon. SDTU, donc soit à la demande de tiers, et SPI, donc cette nouvelle procédure qui a été mise en place par la loi du 5 juillet 2011. Alors, sur ce point-là, il y a actuellement une différence, finalement, de traitement sémantique, puisque la différence, au-delà des conditions, évidemment, entre qui produit le certificat médical initial, médecin de l'établissement d'accueil ou hors de l'établissement d'accueil, il y a une distinction qui est faite par le législateur entre péril imminent, ce qui qualifie la situation que le médecin doit viser pour les soins en cas de péril imminent, et l'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, ce qui est un des critères qui d'ailleurs n'était pas celui qui était utilisé avant la loi du 5 juillet 2011, qui est le critère de la SDTU. Bien entendu, alors j'ai lu avec attention parfois certains commentaires, parfois de collègues, d'éminents collègues juristes, qui vont finalement faire un développement sur la différence à la fois sémantique mais aussi pratique entre la notion de péril imminent et d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. L'analyse des travaux parlementaires préparatoires de la loi, notamment, enfin en tout cas de discussions parlementaires, m'ont amené à constater que la notion de péril imminent a été, dans le processus législatif de préparation de la loi, très largement maintenue jusqu'au terme, et que finalement, la notion d'urgence est apparue pour dissocier finalement les deux procédures, pour éviter la confusion entre les deux. Mais finalement, sur le plan sémantique et sur le plan du contenu, il me paraît quand même très périlleux d'y voir là une différence notable entre péril imminent et urgence. Donc je crois qu'ici, une fois cela dit, il serait intéressant finalement de lier les deux. Et donc d'une certaine manière, pour éviter cette confusion-là, d'associer ces deux procédures avec au profit d'une procédure unique de péril imminent, avec ou sans tiers demandeur. Le médecin, alors auteur de l'unique certificat médical, serait, dans le cas du SPI, ce qui est le cas aujourd'hui sans tiers, obligatoirement un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Et dans le cas d'une SPI avec tiers demandeur, un médecin exerçant ou non au sein de cet établissement. Donc finalement, sur le plan des procédures, la simplification procéderait finalement de l'unification de ces deux procédures qui sont aujourd'hui coexistantes.
Le temps passe.
Alors, le temps passe, donc je vais essayer d'aller encore à l'essentiel. D'autre part, je crois que sur la proposition 5, vous me laissez combien, monsieur? Je renvoie de toute façon au site, toujours.
Oui, voilà.
Quelques 5-6 minutes,
oui,
encore.
Oui, pas plus.
Pas plus hein. Donc, sur une autre proposition que je vous soumets aussi, supprimer l'exigence de dactylographie, c'est une demande qui a été faite sur le terrain aussi, par rapport à la complexité, d'ailleurs, de dissociation entre, d'un côté, les soins sur décision du représentant de l'État, pour lesquels la dactylographie des documents médicaux est le principe, et souvent, d'ailleurs, sur le terrain, l'incompréhension, puisqu'on dit, finalement, ça permettra la dactylographie au préfet de pouvoir rendre lisible le certificat médical, m'interrogeant, me disant finalement un directeur d'hôpital qui prend une mesure de soins, finalement une décision administrative, lit-il mieux et de façon plus aisée que le préfet, que les autorités préfectorales, ces éléments médicaux. Sachant que ce n'est pas uniquement que ce problème-là, c'est que la dactylographie pose aussi des soucis quand, par exemple, un médecin va, à la sollicitation du maire, se rendre, par exemple, au commissariat et n'a pas sur lui sa secrétaire médicale ou, en tout cas, les moyens de pouvoir dactylographier le certificat médical et tout élément médicaux. Donc je crois que ce serait un facteur de simplification, d'unifier, finalement, cela, et en partant du postulat qu'un médecin se doit d'écrire lisiblement, c'est le code de déontologie médicale, et donc à partir de là, la dactylographie aujourd'hui me paraît assez peu satisfaisante. C'est un facteur de complexité. par ailleurs. Alors je vais essayer d'aller sur des éléments importants peut-être. Bon voilà, sur les sorties de courte durée notamment, je crois que c'est un point essentiel qui n'est pas d'ailleurs, je crois que bon, il est tout à fait normal de ma part que quand ma proposition s'appuie sur une proposition préalable de la note, j'essaie d'être tout à fait transparent, de pouvoir aussi rappeler et de proposer à l'ADESME d'appuyer les propositions qui sont faites plus en amont. C'est le cas notamment de cette possibilité qui vraiment me saisit sur le terrain. Par exemple, récemment, un patient qui on souhaiterait, parce que ça lui ferait du bien finalement sur le plan de la démarche thérapeutique, d'aller sur le marché le dimanche matin pendant 2 heures. Eh bien aujourd'hui, alors qu'il est en hospitalisation complète, il n'y a pas de cadre juridique véritablement qui permette dans cette situation-là de pouvoir répondre à ce souci-là, qui est un souci médical. Et donc je crois qu'ici, alors moi en tant que juriste, j'essaie d'aider, mais ma solution, elle est toujours perfectible. Je pensais mettre en place dans le cadre d'un programme de soins dans lequel, comme vous le rappeliez, une hospitalisation ne serait plus une hospitalisation complète. Mais finalement, je suis toujours dans le souci que le programme de soins doit comporter des soins ambulatoires. Et là, ce n'est pas les soins ambulatoires, ce n'est pas le marché le dimanche matin, hélas. Donc c'est vrai qu'il y a un réel problème aujourd'hui. Donc on doit finalement appuyer cette proposition, il me semble. Sur le plan des simplifications, bon, je passe, mais il y a de nombreuses propositions qui ont été discutées dans le cadre du bureau, avec M. Boulec en particulier, sur, évidemment, la suppression de certificats médicaux, dont celui des 24 heures pourrait être effectivement une solution tout à fait cohérente. Simplification, je passe, mais je profite de cela pour le dire aussi, de dissociation entre le médecin qui fait le certificat médical ou l'un des deux certificats médicaux d'admission et celui qui va produire les certificats médicaux des 24 et 72 heures, c'est une nécessité, une garantie de complémentarité. Toutefois, proposer, exiger une interdiction pour celui qui fait le 24 heures dans certaines procédures par rapport à celui qui fait le 72 heures, je parle du médecin psychiatre, et me semble-t-il un non-sens, car un médecin qui établit le certificat médical des 24 heures peut ainsi, en faisant le 72 heures, voir aussi l'évolution du patient. Donc cette différenciation, cette obligation de distinction entre deux psychiatres est effectivement entre le 24 et le 72 heures est effectivement parfois d'abord très périlleux par rapport au médecin disponible et donc finalement est un facteur à la fois de complexité, de lourdeur et je veux dire sur le plan de la signification du sens ne se justifie pas véritablement toujours. Un point essentiel sur lequel je voudrais insister, c'est ce que m'avait demandé l'ADESME d'ailleurs, de réfléchir aussi sur les dispositions qui pourraient être frappées d'inconstitutionnalité à l'avenir. J'en vois une assez importante, qui est le délai qui est octroyé aujourd'hui au préfet, à l'autorité préfectorale, pour statuer par rapport à un programme de soins, ou vous savez, au terme de la période d'observation et de soins, puisqu'il est laissé aujourd'hui 3 jours francs préfet pour pouvoir se prononcer, c'est-à-dire, pour être clair, doubler la période d'observation et de soins en termes de durée pour des raisons qui, ne me semble-t-il, sont uniquement des raisons purement de commodité administrative. Je suis un peu sévère, mais ça veut dire que pour un patient, ce n'est plus 3 jours, enfin 72 heures, c'est 3 jours de plus, ce qui est assez, me semble-t-il, inadmissible et qui serait peut-être, sur le plan constitutionnel, une question qui pourrait être soulevée dans le cas des QPC. Alors bon, peut-être que vous avez d'ailleurs, j'ai noté Monsieur Delarue, je vous en remercie d'ailleurs que vous étiez favorable, ou en tout cas vous ne, pour être plus précis, vous n'étiez pas défavorable à ce transfert au juge des tutelles. Je crois après réflexion qu'il s'agit là d'un souhait tout à fait important, c'est-à-dire le transfert au juge des tutelles correspondrait à finalement au retrait. Pour les juges des libertés de détention, de cette mission de contrôle. Alors, il ne s'agit pas considérer que les juges des libertés de détention seraient alors incompétents pour pouvoir finalement assurer cette mission de contrôle. Il ne s'agit absolument pas de ça, et je l'ai souligné dans la note. Il s'agit davantage de comprendre d'ailleurs le caractère extrêmement complexe de la mission qui est aujourd'hui dévolue à ce nouveau juge finalement des libertés de détention qui depuis 2000 se voit affecté des traitements de personnes qui sont finalement à la fois condamnées mais aussi donc finalement la mission est vraiment, c'est un juge qui a des missions polymorphes, multiples et que finalement face à une complexité du droit, il me paraît difficile pour ces juges aujourd'hui finalement de pouvoir traiter de façon raisonnable raisonnable et convenable l'ensemble des missions et des charges qui leur sont attribuées. Par ailleurs, il y a effectivement un point clé qui est que aujourd'hui, le juge des libertés de la détention fonctionne ici dans le cadre d'audiences qui sont par nature publiques. Et finalement, le transfert au juge des tutelles, par exemple, qui nécessiterait alors une requalification. Le terme de juge des tutelles, d'ailleurs, même s'il peut paraître pertinent sur le plan juridique, est souvent mal compris, puisque finalement, le juge des tutelles intègre aussi la curatelle et la sauvegarde de justice, bien entendu. Donc le juge des personnes vulnérables permettrait ainsi d'intégrer finalement cette mission de contrôle qui finalement ne se référerait plus alors dans le cadre d'audience, mais dans le cadre d'audition, avec un juge qui était aguerri finalement, et qui n'est un juge finalement, comme vous l'avez souligné, monsieur Delarue, tout à l'heure, qui ne traite pas des détentions en tant que telles, même si je rappelle le propos du Conseil constitutionnel et l'article 66 de la Constitution, où on parle de personnes détenues en parlant de personnes qui sont en hospitalisation complète dans le cadre d'une prise en charge psychiatrique. Voilà, donc c'est une proposition, je crois, qui est forte, que l'ADESM, il me semble, monsieur Alos, souhaite aussi appuyer. Voilà, je vais pas prendre plus de temps pour finalement développer ces propositions. Je vous invite, à titre de conclusion, à vraiment regarder attentivement. Et je crois qu'on peut le dire, je parle sous le contrôle de monsieur le Président, que dans le cadre, notamment, pourquoi pas, d'utiliser le site comme un support, on peut encore effectivement avoir une sorte d'échange. Moi, je suis tout à fait favorable aussi à être disponible, hein, puisque je me nourris aussi de vos préoccupations. Nous pourrions effectivement ainsi faire avancer encore des propositions, puisqu'elles ont été augmentées par rapport à la première proposition de mai. On en a rajouté une dizaine de plus. Donc je vous invite véritablement à pouvoir évoquer des points encore de difficultés sur le terrain qui pourraient ainsi nourrir les travaux finalement du législateur à l'avenir. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc les contributions sont d'autant plus bienvenues que nous sommes moins dans l'urgence qu'à l'époque où la loi était en phase d'élaboration, donc on a un peu plus de temps devant nous.